ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Rutlein, Zohar Levracha. La question de Ruben.
C'est quoi la Kabbale, Rav?
C'est quoi la Kabbale? Alors d'abord, la Kabbale vient du mot Kabbalah, en hébreu qui signifie tradition, qu'on a reçue. Alors ça dépend dans quel livre on lit. Par exemple, dans la Gemara, dans les poskim, dans les décisionnaires, quand on dit vrai Kabbalah, on parle en fait des prophètes. Et les mitzvot qui sont de la Torah, marqués non-sobre dans la Torah, ou en tout cas en signe très clair dans la Torah, 613 mitzvot, ben ça d'oraita. Il y en a qui ont été institués par les rabbins de tous les temps, ça des rabbanan. Et il y en a qui sont mi-chemin entre les deux, par exemple Megillat Esther. Megillat Esther, une sorte de divrei Kabbalah, comment on appelle cela? C'est par les prophètes. Mordechai et Esther qui étaient des prophètes qui ont institué cela. Et comme ça, certaines lois qui sont divrei Kabbalah, sont de Oraita et de Rabbanan. Et par exemple, le Rambam va faire maintenant tout, va faire la liste de tous les rabbins qui ont transmis la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire la tradition juive, d'accord, toute la loi orale que nous connaissons. La loi écrite, telle qu'elle a été écrite, elle est incompréhensible, l'accepter en temps. Elle n'est pas trop antinomique avec la chrétienté, ni trop antinomique avec l'islam. Donc on peut toujours s'arranger parce que c'est assez opaque. Donc la clé de compréhension, c'est nous seuls qui l'avons, c'est la loi orale qui explique la loi écrite. C'est la Kabbalah. Ça, c'est pas ta question. Attends, tu parles de la Kabbalah, ce qu'on appelle aujourd'hui les kabbalistes. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est un terme assez nouveau. Chazal appelle cela les secrets de la Torah. Sodot à Torah. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'essentiel aujourd'hui des écrits que nous avons de Kabbalah, c'est le Zohar, qu'on attribue à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a environ 1800 ans. Ça y est un peu comme la Mishnah, dans le niveau du Plat, d'accord, du sens simple, ceux qui étudient la Gemara et la Mishnah, peuvent voir la Mishnah, tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est des mots simples, mais en fait, quand tu vois la Gemara, tu comprends que tu n'as rien compris, parce que c'est pas de contradiction interne, c'est très condensé. La Gemara vient et elle va expliquer. Le Zohar, c'est le condensé, et durant plusieurs siècles, il y avait des livres qui parlaient un peu de Kabbalah, donc expliquaient un peu le Zohar, mais très cachés. Et aujourd'hui, les kabbalistes interdisent d'enseigner et d'étudier ces livres-là, parce que ce n'est pas la vraie bonne Kabbalah, c'est trop haut. Celui qui a vraiment expliqué cela, et c'est la Kabbalah qu'on accepte aujourd'hui, les kabbalistes, les vrais kabbalistes, n'acceptent que cette Kabbalah, celle de Rabbeinu Ari. Rabbeinu Ari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, vivait il y a environ 500 ans ici en Israël, qui a enseigné son élève Rabbi Chaim Vital pendant 22 mois. Après, Rabbeinu Ari est décédé, je crois qu'il est décédé à l'âge de 37 ans, enfin très très jeune. Et pendant une cinquantaine d'années, Rabbi Chaim Vital a écrit ce que son maître lui a enseigné. On n'a pas d'écrit de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, de Ari lui-même. On appelle cela Kitvei Ari, les écrits du Ari, mais ce n'est pas lui qui a écrit, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital. Maho, c'est les appellations de Moren ou Arabe, Rabbi Chaim Vital. Et c'est cette Kabbalah qui est écrite et étudiée par les différents kabbalistes de tout temps. Il y a après des grands kabbalistes qui sont venus et qui ont expliqué encore plus le Rachash, Rabbi Shlomo Sharabi, et d'autres kabbalistes comme ça qui ont élargi encore plus ces écrits du Hari. Alors Rabbeinu Hari, comme le témoin de son élève Rabbi Chaim Vital, il a reçu son enseignement de Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi, il vient et il enseigne, et bon, c'est pour ça que d'après certains décisionnaires comme Ben Israël, Rabbi Shimon Abba Shaoul, ce que dit la Kabbalah a plus de pouvoir que Shulchan Aruch lui-même. Shulchan Aruch, comme il explique dans son introduction, il dit qu'il y a plusieurs avis sur n'importe quel point de la halakha. Il a pris les trois grands piliers de la halakha qui sont le Rambam, le Rif et le Roche, et tranche d'après la majorité. C'est en gros, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a une loi de la Torah qui nous dit on va d'après la majorité, donc moi je suis la majorité. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément vrai. La Torah dit qu'on suit la majorité, peut-être que c'est la minorité qui a raison. Alors on le fait parce que comme c'est la Torah, il a, en tout cas de doute, tu suis la majorité, mais il y a un doute. Et le Hanavi qui vient et qui dévoile à Rabbeinu Ari, il n'y a pas de doute, c'est comme ça vraiment. Alors dans la Kabbalah, il y a plusieurs, si je me souviens bien, il y a 8 portails. Tous les écrits de Rabbeinu Ari, il y a 8 portails. Un, puis après, Charak, le portail des Kavanot. Quelle intention on doit avoir quand on fait différentes mitzvot ou différentes prières? Comme par exemple, demande Dan, qu'est-ce qu'on pense quand on va au mikvé? Alors là-bas, toi, qu'est-ce que le mikvé? Pourquoi ça s'appelle ainsi? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il faut penser quand tu trempes dedans? Quand tu fais le loulav, quand tu fais Hanouka, d'accord? Quand tu mets les tefillin, quand tu fais la prière? Chaque morceau de la prière, à quel point c'est important, d'accord? Il y a des gens qui allègrement sautent des morceaux de prière, ils ne se rendent pas compte combien de bonnes choses ils se privent, de combien de bonnes choses ils se privent, d'accord? Chaque petit détail, chaque petite lettre, combien elle a un impact extraordinaire sur nous en bien. Ça c'est Shara Kebanot. Il y a Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim, qui va enseigner maintenant qui se réincarne, pour quelle raison, qui, quoi, comment, donc, où. Je suis un grand niard dans ces choses-là, d'accord? Je vous dis en gros le peu que je sais. Il y a Shara Psukim, il a expliqué les versets, c'est-à-dire les versets de la Torah, de son kabbalistique, qui sont les secrets cachés dessous. Shar Mahamare Rashbi, le portail des paroles de Rashbi, Rabbi Shmuel Bar Yochai, explique par certaines parties du Zohar. Qu'est-ce qu'on a encore? Shara Mitzvot, le sens des Mitzvot. 5. Allez, aidez-moi encore ceux qui savent quelque chose. Bon, encore 3 autres. Tu vois à quel point je suis un grand ignorant de cela. Maintenant, il s'agit de secrets de la Torah. Les secrets, comme leur nom indique, ce sont des secrets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de produit au monde qui fait plus d'argent. Peut-être Windows, d'accord? Mais après Windows, c'est la Kabbalah. Ça marche très bien. On dit que quelqu'un qui est kabbaliste, il est tout entouré d'une aura comme ça. On croit qu'il a des pouvoirs spéciaux. Les gens m'appellent, même des gens sérieux, d'accord, on veut une bracha d'un kabbaliste. Comme quoi, ce type-là, il a des... Hein? Sorcier. Pas sorcier, mais il aurait des pouvoirs, sa bracha a plus de poids. Il n'y a aucun rapport. La Kabbalah, c'est une partie de la Torah. Celui qui étudie, qui s'y connaît bien, s'appelle un kabbaliste, c'est tout. Ce n'est pas à cause de ça qu'il a des grands pouvoirs. Il y a des très grands rabbins du peuple juif qui sont très petits en Kabbalah, et normalement qui ont des pouvoirs beaucoup plus grands que des kabbalistes. C'est d'habitude comme ça. Il y a beaucoup de faux kabbalistes, vu que c'est un moyen très bien, très facile de faire beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de kavod. Tu mets une gel là-bas, tu as un type qui est devant toi et qui décrit un grand kabbaliste, et dès lors, tu as des queues de gens qui t'attendent. Tu es un peu manipulateur, tu peux facilement faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La Kabbalah est secrète. Les grands kabbalistes ne sont pas connus. Très peu. Ils ne sont pas sur Internet, ils ne sont pas à l'étranger. C'est des gens qui se cachent. Tout ce qui est en Torah, il faut savoir que tout ce qui est dévoilé, celui qui dévoile des choses, le Zohar lui-même, il dit, celui qui se vante, c'est clair qu'il ne sait rien. Les choses qu'on dit ne peuvent pas être des choses secrètes. Les choses secrètes sont secrètes. Il y a un passage très intéressant à la fin du Zohar. Enfin, je ne sais pas où il se trouve, hein, mais c'est à la fin de la vie d'Arbushman. On lit ça, c'est la Hadra. On lit cela. Pourquoi je connais ce passage? Parce que c'est le début de la Hadra avant de m'endormir. Quand on fait l'éveil, d'accord? On lit au moment où il faut lire du Zohar. Parce que tu comprends rien de ce que tu dis. Mais bon, c'est des grands secrets de la Torah. Au début, on comprend un peu. Après, on ne comprend plus rien. Alors, à partir qu'on comprend, c'est Arbushman Bar Yochai qui réunit maintenant ses 10 élèves pour dévoiler maintenant les grands secrets de la Hadra, de la descente des mondes, d'accord? Des grands, grands secrets de Kabbalah. Et dit auparavant, avant d'enseigner cela, je dois réparer chez vous la mauvaise trait de caractère. Il y a un verset de la Torah qui dit « Lo teler rachil » « Tu n'iras pas le colporter ». Le vrai sens de ce verset, c'est pas la chonara. T'entends maintenant un truc sur quelqu'un, tac, tu vas raconter, j'ai entendu, t'as la voisine, tatati, tata, entre voisines, ils aiment beaucoup ça, d'accord? Ça, c'est interdit par la Torah. Maintenant, il dit, il y a un problème. Quand quelqu'un apprend un secret de la Torah, ou n'importe quel secret, vous pouvez faire l'expérience avec vous-même, c'est fabuleux à voir. Si quelqu'un n'est pas Neman Ruach, comme dit Rabbi Shmuel Bar Yochai, Neman Ruach, qu'il a Neeman Ruach, un souffle confiant, on peut lui faire confiance, c'est un type qui est solide. Il dit que le secret se colporte dans son corps. Il monte à la tête, il redescend au pied. Tac, tac, tac. Le type, il reste pas tranquille. Il doit dévoiler ça à quelqu'un. Il se retient une semaine, un mois, deux, après un bon jour, paf ! Il ne peut pas retenir ça. Avant que je vous enseigne maintenant le grand secret de la Torah, je dois maintenant réparer chez vous cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère d'être colporteur. Ça veut dire que le secret doit rester secret. Ce sont des choses qui sont très profondes.
Même en Torah ou pas ? Un kabbaliste avec un autre kabbaliste.
Alors, si je m'y connaissais bien, je te dirais la réponse. Ce que je crois du peu que j'ai vu. Les textes, c'est pas compliqué de les acheter. On peut acheter ces textes, on peut aussi avoir une petite formation de comment comprendre ce qui est écrit et puis lire et croire qu'on a compris quelque chose. En fait, on est complètement à côté de la plaque. Parce que...
Non, je veux dire, un grand kabbaliste et un autre grand kabbaliste, ils peuvent en parler entre eux ou ils le...
Oui, bien sûr qu'ils parlent. Bien sûr, il y a des chivots de Kabbalah. Bien sûr, il y a. Maintenant, le problème est le suivant. C'est que la Kabbalah va parler de... du dévoilement d'Hachem. Hachem lui-même, on ne sait pas qui il est, on n'en parle pas, mais du dévoilement d'Hachem. Lui se dévoile. Comment ? Par ses voies de conduite. Il agit dans ce monde. Comment il agit ? Alors tu as des sphères. 10 sphères, d'accord ? Tu as un côté de chesed, un côté de gvoura, de miséricorde, un côté de din, de rigueur céleste. Et l'agencement de cela, c'est très, 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 très compliqué. C'est, alors Moussa Machou l'a dit, la sugiya, le sujet de Gemara le plus dur, la Gemara est plus facile que la Sugya, la plus facile en Kabbalah. Donc, ceux qui vont et qui croient qu'ils comprennent, ils comprennent rien. Le Stapler a écrit, si tu dis la Kabbalah, ils croient qu'ils comprennent, ils comprennent rien. Ça veut dire qu'on peut, comme j'ai dit, on peut prendre les textes et lire et croire qu'on a compris, et croire qu'on est kabbaliste, et croire, etc., etc., puis on n'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que, comment tu veux parler de Hachem ou de ses voies de conduite ? On parle de choses extrêmement spirituelles. Donc la Kabbalah, elle parle d'exemples de choses. Elle va parler de sphères, elle va parler d'habits, elle va parler de, je sais pas moi, de membres, d'accord ? Elle va parler de parties humaines, d'accord ? Mais qu'on accorde à Hachem. Hachem n'a pas de parties humaines. Alors tout le monde sait que c'est une façon de parler, c'est des angles, des exemples. Ok ? Mais personne ne sait exactement de quoi on parle. Celui qui sait vraiment, ça c'est le vrai grand kabbaliste. Et ça, je ne sais pas s'il en existe actuellement. Des gens qui comprennent, on parle de l'exemple, en fait on parle d'une chose beaucoup plus profonde, et comprennent de quelle chose profonde on parle. Mais on ne peut pas en parler, parce que c'est trop haut pour qu'on puisse dire ça avec des paroles. Voilà. C'est ce que je pense. Pourquoi sont des choses qui sont profonde, et ceux qui en parlent peut-être à demi-mot, je ne sais pas comment ils en parlent. On peut parler, encore une fois, on peut comprendre, mais on peut en parler. Quelqu'un étudie un texte, et lui on en parle, on essaie de comprendre, etc. Mais ça reste très très superficiel.
Et les livres ici, là-dessus ?
Il n'y a pas de livres ici, on évite absolument qu'il y ait ça à l'échelle pour pas que les gens croient, parce qu'un Baal Tshuva, il veut tout de suite sauter là-dedans, et ça c'est un danger. C'est un très grand danger, parce que ça déséquilibre la personne. Moi, je connais des gens qui ont la Kabbalah qui sont déséquilibrés. C'est quoi déséquilibré ? C'est pas qu'il est à la dizaine de fou avec un tonneau, avec un entonnoir sur la tête, d'accord ? Il y en a aussi des comme ça. Mais ils vont prendre les choses de façon déséquilibrée. Ils vont mettre l'accent sur des choses qui sont accessoires. Les choses essentielles, ils vont passer à côté. Très souvent, tu peux voir ça. Ceux qui sont un peu branchés Kabbalah, mais pas de façon équilibrée, ils ne savent pas ce qui est essentiel et accessoire. Ils vont mettre un accent sur un petit détail de Kabbalah tout à fait inoffensif, d'accord ? Pour eux, c'est chas et shalom de passer outre, parce que Kabbalah, c'est plus que tout. Et l'essentiel, ils passent à côté. Ben, il faut savoir les choses dans le bonne mesure. C'est pour cela que, pour l'Ashkenazim, comme ça écrit le Réma, le Shulchan Aruch d'Ashkenazim, ils peuvent étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans. Sfaradim, ils peuvent, mais néanmoins, ils doivent avoir leur ventre rempli de chas ou poskim. Chasse, c'est le Gemara, et poskim décisionnaire. Étudier des années très très bien, beaucoup la Torah, le sens simple, la Gemara, les poskim, ça te donne une tête droite, ça te stabilise, ça te donne maintenant une base super solide. Après, sur ça, tu peux aller construire.
Alors, comment faire la part des choses ?
Alors, aujourd'hui, un jeune comme vous, il étudie Gemara, poskim, au moins pendant 10-15 ans, non-stop. Après, il ira voir un grand Torah et il lui dira, ou son rabbin lui dira, s'il peut commencer à toucher à ça ou pas. Et faire attention, j'ai pas mal de copains qui ont commencé à étudier la Kabbalah, la majorité, ils ont perdu un fils.
Quoi ?
Ouais. Parce que tu parles maintenant de choses extrêmement saintes. Et tu as la tête tordue.
Ça sert à quoi ?
D'étudier cela ? Connaître les voies de conduite d'Hachem. C'est une partie. Dieu veut aussi qu'on apprenne ça. Connaître sa volonté. Et connaître sa volonté au niveau du sens simple. Qu'est-ce qui est permis Shabbat ou pas ? Comment faire une prière ? Que doit faire un Kohen au temple ? D'accord ? Connaître aussi au niveau plus profond. Comment Dieu, quelles sont ses voies d'action dans ce monde ? Il veut aussi qu'on apprenne cela. Vu qu'on parle de choses extrêmement hautes, il faut être extrêmement pur. Par exemple, on parle beaucoup dans la Kabbalah d'union intime, de l'organe de l'homme qui rentre dans l'organe de la femme, dans la divinité. Alors t'imagines maintenant un type qui est tordu dans la tête, il commence à voir des choses pareilles, il a brûlé son âme. Il a brûlé son âme. Tu dois être tellement pur que quand on parle de ça, ça ne fait aucun effet, tu n'as aucune imagination de choses que tu as vues dans ta vie. Qui peut dire, moi je suis nickel ? Et sinon, après, voilà, il y a eu des cas. Je connais beaucoup de gens qui ont un fils ou en pauvreté ou des malheurs, des choses terribles. Tu joues avec maintenant le Saint des Saints et tu fais rentrer des cochonneries dedans, ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de Torah qui n'est pas Kabbalah qu'on peut étudier. Et ceux qui aiment cela, et c'est vrai que c'est normal parce qu'on veut connaître le sens plus profond, il y a suffisamment aujourd'hui de livres de pensée juive, comme le Rav Pinkus, le Ramchal, des choses comme ça, suffisamment profond, qui parlent de son Kabbalah sans que tu sois obligé de rentrer dans la technique profonde des choses, qui suffisent beaucoup. Et je veux dire, le peu que je connais que des gens ont vu, etc., c'est très technique. C'est pas du genre, on croit, on va rentrer dans la Kabbalah, ça va être super kiffant, ah, le bon Dieu et tout ça, je m'envole. C'est la Gemara x 10, en technicité. C'est de la technique. Il faut être fort en maths, fort en architecture, voir comment c'est construit, tac, tac, tac.
Celui qui maîtrise, il peut arriver à faire quoi ?
Celui qui maîtrise beaucoup, il peut arriver à absolument rien faire. Les gens croient que les kabbalistes ont un pouvoir. Je dis, c'est faux. Les gens saints ont un pouvoir. Les gens saints ont un pouvoir. Rabbi Shlomo Ben Shaul, que j'ai connu de proche, c'est un homme saint. Il a étudié le Talmud comme cette personne au monde l'a étudié. Jour et nuit, profondément. À un tel point que Dieu lui a donné maintenant un flux de lumière extraordinaire qu'il avait non seulement un pouvoir de voir. Et il disait clairement, il ne le cachait pas, d'accord ? Il voit. Mais aussi, il a dit, c'est simple de voir. Beaucoup de gens peuvent voir, comme ça il a dit. Ce qui est dur, c'est changer. Une dame maintenant, une femme un jour va dans la rue, lui dit, Kodara, faites-moi le bracha que j'ai des enfants. Ça fait 9 ans que je n'ai pas d'enfants. L'histoire est comme ça. Il y a une semaine, une fois le rave, terrible. Sa femme à l'hôpital, et lui, et tac. Sa sœur lui a dit, sa sœur était la belle-mère de mon chagruta. Je suis au courant un peu d'une histoire familiale comme ça. Sa sœur lui a dit, je ne comprends pas, Kvod Arav. Ham Ben Sion, comme ça, son frère lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas, toi, un grand sadique comme ça, tu as tellement de malheur. La semaine passée, j'étais dans la rue, une femme est venue me demander une bracha pour avoir des enfants. Et moi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, je lui ai débiné comme si elle a compris. Elle a éclaté en sanglots, elle a attrapé ma redingote, elle a dit, je jure que je ne vous lâche pas avant que vous me promettez que j'ai un enfant. Comme ça, au milieu de la rue. Le rabbin était extrêmement miséricordieux, il voulait beaucoup aider. Je l'ai béni. Le rabbin Sion, quand il bénit, il disait un mot, ça se réalisait. Alors dans le ciel maintenant, c'est marqué, il n'aura pas d'enfant. Et toi, tu lui dis, tac, un tzadik gozer, c'est marqué un tzadik, il décrète, Dieu exécute. Mais c'est pas important, tu as fait un chèque de 10 millions, il faut assumer. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des souffrances. Alors, il acceptait les souffrances, il prenait sur lui, et il changeait.
Dans ces cas-là, comment faire ? Comment faire ? Si la dame, elle est là, elle vous attrape et tout.
Voilà, ce qu'il a dit, que je voulais faire, voilà. D'autres fois, ils sont venus, il dit, je peux plus, il souffrait, j'ai pris trop sur moi, je peux pas plus. Il a dit aussi des fois, stop. Alors comment il a eu ce pouvoir-là ? Je lui demandais. Un jour à Pourim, j'ai bu un petit coup, et lui aussi. Alors je lui ai dit, moi un peu plus que lui, le code arabe, vous avez voir à Kodesh. Il me dit, oui, comment vous avez fait? Donnez-moi le secret. Il dit, je ne sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Et moi, ça fait 25 ans que j'enseigne les élèves, c'est toujours pas venu, tu vois. C'est-à-dire quoi, comment il enseignait? Il m'a dit, former un élève, il a fait comme ça, c'est dur. Il rentrait dans la Gemara profond, 3 heures de cours, il sortait, il devait essorer sa chemise tellement elle était de transpiration, il se sur les murs tellement il était fatigué. De l'étude de Gemara. Et les gens croient, non, Kabbalah, machin. Je vous dis, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Ça, c'est des grands. Le Rav Shach. Il voyait tout. C'était un monsieur qui tenait tout un Israël. Je ne sais pas si vous avez un livre de Kabbalah une fois de sa vie, le Rav Shach. Je ne sais pas. Peut-être, oui. Mais ça m'étonnerait. Gemara. C'est ce que Chazal nous ont transmis, c'est ça. Alors, il y a une expérience d'étude de la Kabbalah, il faut. Le jour où, tu es suffisamment pur, grand et tu peux rentrer là-dedans, ok, c'est bien aussi, pourquoi pas. Si tu es du niveau, tu n'es pas du niveau, non. Et ne pas croire que par cela, ça nous fait acquérir des niveaux de kabbalistes qui voient des choses et peuvent changer le destin et faire des brachotes et ça marche. Rien à voir. Pour que ça marche, il faut être un grand tzaddique. Comment un grand tzaddique? Essentiellement avec l'étude de Torah. Alors, Rahman Kanevski. Un homme qui voit, un homme qui change aussi, il a un pouvoir. Le fils de Rabbi Yossi ben Shaoul m'a dit, quand je vois le Rav Chaim Kanevski, c'est comme si je vois mon père. C'est la même chose, la même façon d'agir. Des fois, il tranche, on ne sait pas comment, parce que lui, il voit des choses, il tranche en deux mots, tac, c'était en deux mots. Oui, non, tac, tac. Il voit. Et il peut changer. Comment il a eu ça, le Rav Chaim Kanevski? Je crois qu'il étudie la Kabbalah. Peut-être très peu, mais il n'est pas du tout connu. Personne ne l'a vu une fois et dire un mot et voir. Peut-être qu'il étudie, mais ça m'étonnerait. Je ne sais même pas. Mais par contre, le chasse, il finit une fois par année, tout le chasse. Et Yerushalmi, et Bavli, il connaît tout par cœur, machin, tout ça. Un grand Torah, il connaît toute la Torah. C'est ça qui sanctifie. Vous arrivez à des niveaux, messieurs, de kabbalistes.
La Kabbalah.
Hein?
La Kabbalah, elle sert à comprendre, à cerner les enjeux de la vie, enfin.
Pas du tout.
Qu'est-ce qu'on enseigne dedans?
Comment sont agencées les sphères qui sont les voies de conduite par lesquelles Dieu agit dans ce monde? Tu verras, tu as un qui s'appelle un truc qui s'appelle X, l'autre s'appelle Y, X qui rentre dans Y, Y qui rentre dans V, dans W, ça se répartit. C'est tout. La technique, un bâtiment énorme, très compliqué. Ça prend des années à comprendre un peu comment se tient ce bâtiment-là, avec des tas de petits détails, chaque chambre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et après tout, ça ne change rien.
Il ouvre un livre, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a écrit. Même s'il a l'esprit, il est ok, il est déjà plus pur que nous ou quoi, mais il peut comprendre.
Je ne vois pas ce que tu dis. Oui, il comprend la technique, l'architecture. Ouais, c'est une architecture.
Bien, déjà, pour l'architecture.
Oui, c'est très bien.
Ça
t'avance à quoi?
Hein?
Ça t'avance à quoi?
Ça amène un petit peu ce que c'est la Kabbalah.
Ça ne va pas t'avancer à son logique, mais ça ne va pas t'avancer dans les enjeux de la vie que tu voulais savoir. Les enjeux de la vie que tu cherches, ça, c'est dans les livres de pensée juive. La Gemara un peu, pas beaucoup. Dans les Agadot de la Gemara, tu as. Mais les livres de pensée juive, c'est eux qui prennent tout ce qui puisent à ces sources-là et prennent maintenant ce qui concerne nous au niveau des enjeux de la vie. Ça s'appelle pensée juive. La Kabbalah, au niveau de l'étude de la Kabbalah, c'est très très technique. Très très technique C'est pas du tout quelque chose qui te fait voler dans les airs. Mais néanmoins, c'est parti de la Torah. Et puis, un beau jour, il faudra combien qu'on se mette à l'apprendre. Quand Machiav viendra, moi je suis Machiav Binader et j'ai commencé en voiture avec Machiav, avec vous sur les bancs. Ouais, Bézat Hachem.
Mais vous, donc, vous, si vous faites de la Kabbalah, vous allez comprendre. Si vous êtes déjà plus pur que nous, déjà.
Je pense pas que je vais mieux comprendre que toi.
Vous allez comprendre quand même quelque chose.
Mais tout le monde peut comprendre. La question maintenant, dans ta tête maintenant, quand on parle de choses, comme j'ai dit, est-ce que tu vas arriver à rester complètement spirituel ou bien tu vas commencer à avoir des mauvaises idées? Tu comprends? Tu parles du Saint des Saints d'Hachem. Dans le Saint des Saints, il y avait deux chérubins. Chazal dit qu'ils étaient en situation de relation intime. Alors tu rentres là-dedans puis tu dis, je me suis trompé d'adresse. Comprends? Combien il faut être pur?
Il faut pas l'imaginer, quoi, quand on...
Surtout pas. Ça. Surtout pas.
C'est
magique, hein?
Ça fait peur.
C'est le funambule.
Ouais.
Alors, il faut beaucoup se purifier. Quand il se purifie beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de Torah, beaucoup de Torah. Torah, la prière, les mitzvot, tout faire comme il faut bien. Alors, Dieu... Ça, le Ramchal, il explique. Le Kabbalah, il explique. Un peu le Kabbalah, maintenant, les enjeux de la vie. Le Ramchal, il explique que quand on est né, on fait partie du côté négatif. On a une petite âme qui est très, très petite, éteinte. Maintenant, plus on va faire de mitzvot, plus on va étudier la Torah, plus elle se met éclairée, et plus elle éclaire, plus la partie négative, elle part. Donc, nous, on doit faire maintenant une transformation. On doit passer de négatif à positif. Le moyen d'agir s'appelle étude Torah, mitzvot, prière. Quand je dis mitzvot, c'est faire les mitzvot et ne pas faire de péché. Et quand tu commences à vivre comme il faut bien, comme Hachem y veut, Tu te lèves le matin à l'heure, tu fais ta prière de A à Z avec Kavanah, pensant bien ce que tu dis, tu étudies la Torah, tu ne parles pas de choses interdites, tu ne penses pas de choses interdites, tu te sanctifies. Et ça marche. Au moment où tu deviens quelqu'un de très proche d'Hachem, à ce moment-là, tu n'as plus intérêt. Même, tu ne penses pas à des filles, à des choses comme ça, c'est fini, ça ne t'intéresse plus. Pas qu'est-ce qu'on mange ce soir, et puis pas à des filles. Tu penses maintenant à Hachem toute la journée. Alors là, hein, c'est clair que tu es pur dans ta tête, tu peux rentrer. C'est conseillé de rentrer dans ces domaines d'études.
Quand on a dit les images, ça ne part pas comme ça, alors faut travailler.
Pas comme ça du tout.
C'est plusieurs années, quoi.
Plusieurs dizaines d'années.
Un petit peu différent, mais vous dites qu'il faut étudier le maximum, prier le maximum, faire le maximum de...
Exactement, tu as tout dit.
Et qu'est-ce qu'on répond à une personne qui dit à plus tard, ça implique un peu moins d'argent, et un peu moins de confort, et donc un peu moins de... Et qui se dit,
il faut choisir les bonbons ou Dieu.
Comment ?
Il faut choisir les bonbons ou Dieu. Dieu, ça paye très bien, c'est éternel. Mais c'est pas très bon sur la langue. Et un bonbon, c'est bon tout de suite. Miam. Il a une question autre. Il n'y a pas comme tu dis. Pas tout le monde est voué à étudier toute la journée. Maintenant, quelqu'un qui est peu étudié toute la journée, il dit bon, ça signifie un peu moins de confort. C'est la question, un peu moins de confort. Ah, c'est des bonbons. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu lui dis, il faut choisir en Dieu les bonbons. C'est ça la réponse. C'est une très bonne réponse.
C'est quoi ?
Exactement. Tu lui dis, mon cher ami, il faut choisir dans la vie entre Dieu et les bonbons. Voilà. Alors, il comprendra qu'il...
Il va vous répondre maintenant, mais moi, j'étudie, et puis je travaille, et puis c'est très bien.
Dieu est bon.
Ok, ok.
Je travaille, mais en étudiant à plein temps, c'est quand même différent. On a notre impact, notre vie.
C'est clair. Alors, au lieu d'avoir une boîte pleine de bons dieux, d'accord, il y a un qui a une boîte pleine de bonbons sans de bons dieux. Tu as un qui a une boîte pleine de HM, de Dieu, puis un qui est à moitié-moitié.
Et du coup,
la boîte de sa boîte, au lieu de la remplir de Dieu, il a rempli de bonbons.
J'ai compris. Alors, qu'est-ce que...
Ben, c'est très dommage, non ?
C'est dommage.
Mais ça, c'est dommage. Tu as une boîte pour remplir de divinité. De divinité, c'est-à-dire c'est le bonheur des bonheurs des bonheurs. C'est quoi un bonbon par rapport à quoi ? C'est même pas, oui, même pas quoi rappeler. Mais il le sait, tu peux le dire entre l'éternité. Alors fais-lui un...
Elle veut des maisons, elle veut des beaux meubles.
Ok, alors il faut expliquer les choses un peu plus, de façon plus illustrée, ça. Je dis, c'est quoi l'infini ? Imagine maintenant que... Je prends maintenant une cuillerée, une petite cuillère comme ça à café, que je remplis de sable. De sable fin de la mer. Il y a combien de grains de sable ? Pas infini dans une cuillère à café. 100 000, non, quand même pas. 1000, hein. 1000.
10 000,
allez, voilà. 1000, on va 1000. Une petite cuillère à coiffer, 1000. J'ai un verre, combien il y a dedans ? Ah, on va dire 30 000, plus 50 000. Je remplis maintenant la table ici de 1 cm de sable.
Là, il y a 1 million,
là,
peut-être.
Un million.
Je
suis
un mathématicien, on n'en sait rien, c'est à peu près.
Non, mais.
Vous le jeu. J'en ai 1 248 000. Ouais. Ça va, 1 million.
Mais bien sûr, regarde. Il y a un carré.
T'imagines ?
Un carré.
Ça, déjà, un carré comme ça.
Un centimètre carré, t'as combien dedans ? On va dire 5 000, hein. Dans un centimètre carré, j'ai 5 000. Maintenant, tu prends la table, elle fait combien ? Elle fait 70 sur 2,50 m. Allez, combien ça nous fait ? Bon, je ne vais pas vous casser les pieds. Alors, ok. Il y a un certain chiffre. Ok ? On va dire 3 millions. Maintenant, je mets dans toute la yeshiva 10 cm de sable. Combien il y a ?
3 milliards.
Des milliards de milliards. Ah, des milliards de milliards. Maintenant, dans tout Yerushalayim, je mets 10 cm de sable. La vie passera. Tous les habitants de Jérusalem commencent à compter les grains de... On finira pas. Maintenant, tu prends toute la terre d'Israël, qui est petite terre, pratiquement toute la France, tu mets 10 cm de sable, pratiquement toute la terre. Tu ne mets pas 10 cm, tu mets 100 km de sable. Tu enlèves toutes les mers, il n'y a plus d'eau, tu mets que du sable. Combien de grains de sable tu as ? Un grand chiffre. Maintenant, une fois tous les 100 000 milliards d'années, pardon, les 100 milliards de milliards de milliards d'années, tu prends un grain. Combien de temps ça prendra pour enlever tous les grains? Ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins que l'infini. Et une mitzvah, ça t'octroie à l'infini. Une mitzvah. Une parole de Torah. Vadeber, Hachem, El Moshe, les morts, t'as fait cinq paroles de Torah. Infini, divin. Divin. Maintenant, t'as un bonbon. Que t'avales, il n'y a plus rien après.
Oui, mais là, cette infini-là, cette divinité que vous parlez, vous avez une chance sur deux que ce ne soit pas le cas. Que ce soit pas, que ça n'arrive pas. Alors non. Que le bonbon, vous avez une chance sur une que ça arrive.
Alexander.
Les bras habités, elles fonctionnent comme ça.
Je vais te répondre de deux façons. Première façon, ici à l'Yeshiva, les gens sont rentrés, déjà, ils savent pas, ils pensent, ils savent pas, ils croient, ils savent que la Torah est d'origine divine. Donc c'est un axiome. Maintenant, nous on n'aime pas les axiomes. Donc il y a un cours que je conseille d'aller voir qui s'appelle La preuve irréfutable. Et j'ai pas encore entendu maintenant la... D'accord, alors montre-le-moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui a réussi à réfuter cette démonstration. Volontiers, volontiers. J'en ai eu un qui est venu, un pauvre religieux un peu là cette semaine, une famille religieuse, mais bon, il a beaucoup de problèmes de croyance en Dieu. Et bon, je parlais de ce cours-là, bon, il a dit qu'il allait le voir, mais après j'ai ouvert les versets, j'ai ouvert Yechezkel 36, qui raconte, il y a 2500 ans, qu'après avoir été en exil, le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, et la terre va donner ses fruits, les peuples seront, les maisons seront rebâties, et après, il y a 38, il raconte maintenant Gog ou Magog, j'explique, je montre où c'est marqué la Shoah aussi, donc bon, tu vois que toute l'histoire dans les prophéties est écrite, alors qu'est-ce qu'on peut discuter après ça? Donc quelqu'un qui va étudier bien le sujet, il verra pas qu'il faut croire en Dieu, c'est une réalité irréfutable, prouvée de façon rationnelle. Donc il n'y a pas une chance sur deux. Il y a 0,00, il n'y a aucune chance que ce soit faux, c'est complètement vrai, mais, on ne le perçoit pas. Tout ce que je fais maintenant, quand je parle de l'éternité et le bonbon, alors les gens écoutent, ok, ils voient l'éternité un peu plus grand et le bonbon. Après, je vais attendre toute illustration. Pourquoi je voulais faire les calculs tellement 1 milliard de minutes en 48, comme tu dis, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on parle de ça, au bout de moment, on commence à se rendre compte un peu, combien c'est grand, et ça, c'est une mitzvah.
Mais quand vous dites une mitzvah, elle nous donne l'éternité, alors pourquoi en faire 600 ans? Bah, ça y est, je fais une mitzvah, je fais une fois Shabbat, ça y est, j'ai
l'éternité. Mais ok, mon éternité, t'as la qualité aussi. Tu peux avoir maintenant, dans l'éternité, une petite place comme ça, là, ou bien un palais.
Ça change quoi vu que c'est éternel et c'est infini.
Mais quelle qualité dans l'éternité? T'as une frite ou bien t'as un palais? T'as une frite de l'éternité, ok. T'as un bonbon de l'éternité. Il y a la qualité, il y a la quantité, il y a la longueur. L'éternité, c'est éternel. Maintenant, t'as quoi? T'as une voix, t'en as 10, t'en as 10 000, t'as 10 milliards, t'as quelle qualité? Comme ci, comme ça. Tu comprends? Il y en a un qui, dans le Olam Haba, pour t'illustrer ça, il aura, je sais pas moi, un texte écrit noir sur blanc, bien, il aura la vidéo en quatre dimensions, du même cours. Qu'est-ce qui est mieux?
Bah, selon la Yeshiva, le texte.
Mais là, quand c'est Kadosh, Chassrami donne l'exemple, il dit, les gens qui donnent de l'argent pour la Torah, alors c'est comme s'ils ont étudié. C'est pas vraiment qu'ils ont étudié. Alors, on leur permettra de rentrer au grand chiour qu'Hachem va faire. Oh, t'as la chance, il y en a qui restent dehors, puis ceux qui vont rentrer, le chiour d'Hachem, Hachem va, il s'assied là, et il donne le cours. Mais il ne va pas comprendre grand-chose. Alors, il est dedans, il ne comprend pas. Maintenant, il y en a un qui comprend, puis un qui objecte à Hachem. Tu comprends, c'est, il y a des différents niveaux.
Mais comment?
Hein?
Comment on peut
objecter? On discute, il y a l'étude de Torah, je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait au Lamaba? Tout ce que vous recherchez maintenant, ce que recherche Baït Chouva par la Kabbalah, d'accord, c'est quoi? C'est cette envie de vérité, de connaître Hachem, ça c'est Olam Haba. Là-bas c'est réalisé. Là-bas on est en super compréhension des enjeux de la vie et d'Hachem.
J'ai une question par rapport à la fin. Vous avez dit que parfois on suit Rabbi Noé qui a vu Eliyahu, mais on a vu que la Torah était sur terre. Pourquoi on doit suivre les skins des lieux avis alors qu'on doit trancher par rapport à...
Je dis qu'il y a des avis qui disent comme ça, le Ben Israël, le Rabbi Sanan Bachar, il y a d'autres comme le Rabbi Yosef qui disent non, Rabbi Noari, on le respecte bien, mais pas plus qu'un autre Rishon, pas plus que le Rambam ou le Ramban, etc. Ta question est très bonne, parce que normalement, on ne doit pas croire quelqu'un qui vient et qui dit « Dieu m'a parlé ». D'accord ? Même Moshe Rabbeinu qui vient et que Dieu m'a parlé, on n'a pas cru en lui. Parce qu'on ne croit pas, on n'est pas des croyants. On a cru uniquement quand Hachem lui-même est venu et nous a parlé. Ce n'est pas le cas de Rabbeinu Ari. Néanmoins, les grands spécialistes, j'en suis pas un, qui sont penchés sur les textes de Rabbeinu Ari, ont compris que c'était la vraie vérité et que ça marchait. Il y a une partie dans la Kabbalah qui s'appelle la Kabbalah Maasit. Ça, les Baal Teshuva adorent cela, d'accord. Kabbalah Maasit, c'est utiliser des noms de Dieu pour faire des miracles. Voilà. Voilà. Non, pas Touma, de Kloucha, de Tahara. Il y a des noms de Touma, il y a des noms interdits. Tu connais pas l'histoire que j'ai racontée 10 000 fois ici. Quand j'avais ton âge, Touma, impur, c'est parti en Orient. Maintenant, il y a le nom de Kdoucha, il y a le nom d'ange. D'accord ? Tu appelles des anges, tu les conjures et ils font des choses pour toi.
Mais ça nous fait quoi ? En échange, c'est sûr qu'il nous arrive un truc, une maladie ou un truc ou...
C'est très dangereux, faut pas faire ça. C'est très dangereux.
On peut les trouver,
non ? Ouais, alors je te raconte l'histoire. Alors moi, j'avais un arrière-grand-père qui était un grand, grand féru de Kabbalah. D'accord ? Il y avait la plus grande bibliothèque du bouquin de Kabbalah au monde. Et quand j'étais jeune, j'avais ton âge. Je l'ai raconté, voilà. Je racontais souvent ça ici. Un jour, mon oncle me demande d'aller chercher, ils avaient dans le Boydem, le ballon de grenier, un petit Sefer Torah comme ça, portatif. Moi, je sortais de l'armée, il dit, monte à voir, je le gratte, je dis, pourquoi ça fout ? Du coup, je vois une enveloppe comme ça, noire, tu sais, de papier à développement Kodak. Kabbalah Maasit, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, donc le tout de la Kabbalah. Kabbalah Maasit, tous les trucs à savoir, tous les... Je demande à mon oncle, dis-moi, c'est quoi ce truc-là ? Du genre, super intéressé. Il saute comme ça, tac, c'est pas pour toi. Zlip, il l'a mis sous sa veste, et depuis, j'ai pas vu. Et ben, au Hachem. Parce que c'est un Yetzerara. C'est un Yetzerara. Celui qui fait ça, j'ai un cousin de ma femme qui est très grand Kabbalah. Un type tout à fait comme ça, très gentil. On voit rien à lui sur lui, mais il est très bon. Il m'a dit que quand il a commencé à étudier il y a une dizaine d'années la Kabbalah, je lui ai dit, mais tu dis, c'est un type bien, il faut faire attention. Oui, le rabbin Sanabacho a dit qu'on pouvait étudier chez lui, que c'était la vraie, pas un truc tordu. Il m'a dit que son rave, néanmoins, quand il était jeune, il a été Serara, et il a fait un truc comme ça de Kabbalah Maasit. Ça a marché, mais il a payé une facture terrible après.
Quoi ?
Je ne vais pas raconter.
Ça les dit des enfants.
Ouais, mais je ne vais pas, des fois ça peut déranger des gens, etc. Ouais. Bon, faut pas toucher à ça. C'est extrêmement grave de faire ça. Extrêmement grave. Donc on ne touche pas à ça. Et bon, Hachem, quand Machiach reviendra, Hachem voudra qu'on fasse ça. On sera au niveau très prochainement, peut-être demain. Machiach reviendra. Alors, on sera au niveau.
Est-ce qu'on aura cette forme
de Machiach
comme
Machiach, on aura un peu
de...
Je crois que tu n'auras pas envie de plusieurs femmes. Je crois que tu n'auras pas envie de plusieurs femmes. Plus... Quand Machiach reviendra, tu n'auras plus ces envies-là. Tu n'auras plus ces envies.
C'est triste.
On aura plus. Il y aura beaucoup mieux.
Ouais, parce que
il y aura l'union. Il y aura l'union. Qui a dit c'est toi qui a dit c'est triste ? Qui a dit c'est triste ?
Moi, c'est moi qui
a dit. Ah, voilà. Alors, j'ai dit, tu n'auras pas envie de ça, tu auras beaucoup mieux. Tu auras beaucoup mieux que ça. Il y aura encore, on se mariera, on aura des enfants.
Bon, on verra que 40 ans. Parce
que... Hein ?
S'il vient dans 40 ans, après, on... Ça dure que 40 ans une fois que ma chère arrive, après, on vient de la lumière.
Non, après, ça commence le processus de Tratamétine qui dure jusqu'en l'an 6000. C'est un long processus, c'est pas du jour au lendemain. Dans ces mille, tout le monde part dans l'âme là-bas.
Ah, donc nous, on va mourir à l'âge qu'on doit mourir, pas. Même si Machiach revient, on ne meurt pas à 60 ans ou quoi, 60.
Non, quand Machiach revient, après, c'est marqué que le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un type qui meurt à l'âge de 100 ans, c'est le pauvre, il est mort à l'âge de 20 ans, comme aujourd'hui, on dirait. Tu comprends ce que je veux dire,
hein?
Le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un jeune homme qui mourra, c'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 100 ans. On verra très très longtemps, mais dans ta chair.
Vous avez dit que.
L'avenir du Machiach, il n'y aura plus de mort.
Il y aura.
Il y aura encore.
Oui, c'est pas, au lieu de mourir comme on meurt aujourd'hui avec l'ange de la mort, on mourra par baiser de la Shrina. On sera happé par l'amour de Dieu.
Je crois que dans ta épisode, la Rochelle, il dit que ça va jusqu'au 10e millénaire.
Après, ça continue.
C'est parce qu'on parlait de ça à la fois et je me dis, putain, je sais pas si ça va s'arrêter au 6e, mais jusqu'au 10e.
Non, 6000, on passe dans une autre.
On a encore, notre corps, il joue encore un.
On passe dans une autre dimension. On n'est plus sur. Le monde est détruit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, ça continue encore à monter.
Je vais kiffer.
Mais dans des choses très hautes.
Demain,
il y a
Machiach ou
demain, il y a
Mashiach.
Demain? Le Machiach, pour qu'on soit certain qu'il est le Machiach, il doit faire quatre choses. Entre autres, construire le Beth Amikdash. Hachem doit faire quelque chose. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël, construire le Beth Amikdash, gagner les guerres de Gog Magog, c'est pas dans l'ordre chronologique forcément, et faire en sorte que tous les Juifs étudient la Torah. Bahou Chadona, Elohim Ba'amen.